Bien, première Mishnah dans les Avot. Et la Mishnah commence comme ça. Moshe kibel Torah mi Sinai. Moshe a reçu la Torah de Sinai. Umasra le Yeshua. Et il l'a passé à Yeshua. Avec Yeshua aux anciens. Les anciens aux prophètes. Les prophètes l'ont passé à la grande assemblée d'Anshe Knesset Agdola. Les rabbins de la grande assemblée. Et eux ont dit trois choses. Iyou metunin badin, d'après la plupart des commentateurs, ça veut dire faites très attention quand vous livrez la justice, quand vous donnez la justice, de ne pas vous précipiter pour dire la loi. Il faut prendre son temps, même si on a l'impression qu'on a déjà jugé ce cas. Ne pas faire des duplicata dans le din, prendre chaque cas de façon individuelle et l'analyser jusqu'au bout. Hamidou talmidim arbe, faites beaucoup d'élèves. Versus siag la Torah et faites une barrière pour protéger la Torah. Donc ça, c'est la première Mishnah de Avot. Alors vous savez que c'est la seule Mishnah qui n'est pas un commentaire d'une révélation, puisque les Perkei Avot sont les paroles de nos pères qui sont prononcées à première vue. On pourrait imaginer qu'il s'agit de paroles d'éthique, de morale, et de bon sens. C'est pour ça que les premiers mots de la Mishnah commencent « Moshe kibel Torah mi Sinai ». Ce rappel historique est pour nous signifier que ne crois surtout pas que tout ce qu'on va apprendre dans cette Mishnah Avot qui ont en apparence ont l'air d'être des enseignements moraux, éthiques, puissent ressembler à un enseignement moral ou éthique qu'on peut trouver chez les non-juifs et qu'on peut trouver un peu partout dans la culture universelle. Cette éthique et cette morale est une éthique et une morale qui vient de Dieu, qui vient du Sinaï, qui vient d'une révélation. Alors, on va se demander plusieurs questions. Qu'est-ce que ça veut dire une éthique et une morale qui vient de Dieu? En quoi se différencie une morale qui viendrait du Sinaï d'une morale universelle? Par exemple, ici, il y a quand même des principes qu'on pourrait reconnaître un peu partout, du genre, bon, je prends au hasard, il dit par exemple hein, que ta maison soit ouverte à tout le monde, que tu donnes et que les pauvres font partie de ta maison, etc. Ça, on peut le retrouver partout. La notion de charité, la notion d'ouverture, la notion d'accueillir le pauvre, c'est des thématiques qu'on retrouve dans toutes les cultures, dans toutes sortes de cultures. Donc, en quoi est-ce que ça viendrait du Sinaï? Alors, il y a ici plusieurs éléments qui nous sont donnés par nos sages. Il y a le premier élément, c'est que, et là c'est très important, c'est que la Torah en vérité se méfie fondamentalement de la morale. Ça paraît bizarre quand on le dit comme ça, de la morale. Parce que la morale, c'est très souvent la bonne conscience, c'est très souvent la satisfaction d'être en conformité avec la loi, ou la satisfaction psychologique d'être quelqu'un de bien, la pérennité de son être au-delà de la mort en étant gratifié du Olam Haba, du paradis, etc., etc., etc. Et donc on dit non, la morale juive, c'est pas ça. La morale juive, c'est une morale de la révélation. C'est-à-dire que le centre de gravité du questionnement existentiel, de comment j'existe, de comment je fais les choses, c'est de se poser une seule question. Est-ce que cette action que je vais mener, cette parole que je vais prononcer, et cette pensée que je vais penser, sont-elles à leur racine voulues par Dieu au Mont Sinaï? Voilà la grande question du tzaddik. La grande question du tzaddik, c'est pas de dire tiens, je vais faire quelque chose, je vais bien me sentir dans la peau. Tiens, je vais aller donner une tzedaka, je vais me sentir bien. Tiens, je vais je vais aider cette vieille femme à traverser la route parce que comme ça, je suis qu'un type bien, etc., etc. Je dis pas que c'est mal, mais là, on est dans l'éthique universelle, aucun rapport avec les Perkei Avot. C'est pour ça que ça s'appelle Avot. Avot, on va voir pourquoi ça s'appelle Avot. Avot, c'est la paternité, c'est le père. C'est la notion d'un enseignement qui vient du plus haut que soi-même. C'est la notion où il va falloir faire une configuration, de faire un lien fondamental entre l'éthique et la vérité, et la vérité et l'éthique. C'est-à-dire qu'on a quelque chose ici d'extraordinaire. On te dit, quand tu fais un acte, l'exigence intérieure de l'acte, c'est de se demander, est-ce que Dieu veut ça? Et des fois, on peut faire des actes qui paraissent anti-éthiques, anti-moraux. Mais ça sera la vraie éthique juive. Par exemple, c'est un peu dur à le dire, mais il y a des grands rochers Shiva, des gens qui tuent la Torah. Et il n'y avait qu'un tout petit morceau de viande, dans des époques de grande pauvreté. L'éthique universelle dirait, mais donne cette viande à ta femme, à tes enfants qui passent avant toi. Cet homme dira, non, moi j'ai besoin d'étudier la Torah. Et pour étudier la Torah, il faut que j'ai des forces. Je mangerai la viande devant mes enfants qui ont faim. C'est terrible de voir un père qui mange la viande devant ses enfants qui ont faim. C'est pas moral, c'est anti-éthique. Mais si au fond de moi-même, je sais, ça c'est un très haut niveau, la plupart des gens doivent donner la viande aux enfants parce qu'ils n'ont pas ce niveau. Mais si quelqu'un a le niveau, il dit, ma Torah c'est le centre du monde, c'est ce qui fait que le monde tient sous le souffle de la parole de la Torah. Si j'y crois vraiment, si je le fais vraiment, eh bien il faudrait que je mange cette viande de façon presque anti-morale pour avoir des forces pour étudier la Torah, parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut avant tout, dans l'ordre des valeurs, dans l'échelle des valeurs, qu'il y ait de la Torah. C'est plus important que de manger, de partager ce steak à 3 ou à 4. Donc on est ici dans une morale dont le centre de gravité n'est pas l'émotion, n'est pas le sentimentalisme, n'est pas la bonne conscience, n'est pas le souci de soi, même au niveau d'être quelqu'un de bien, mais la volonté profonde de Dieu. Ça, c'est ça que va nous enseigner Pirkei Avot. Et on apprend aussi dans un deuxième mouvement le fait que Abraham, Yitzhak, Yaakov étaient des hommes. Mais ils ont incarné chacun, à eux et pas que d'ailleurs, Moïse, Aaron, tous les grands hommes de la Torah, de la Bible, ont incarné dans leur existence une dimension spirituelle exprimée par Dieu. Par exemple, Abraham, c'était le chesed, l'amour. Il a été capable d'incarner dans son existence l'amour. Le chesed, qui est une des 10 sphirotes, une des 10 révélations, une des 10 façons dont Dieu se déplace dans le monde, une des 10 façons dont Dieu s'apparaît dans sa révélation. Il y a Keter, sa volonté, chesed, Chochma, l'intelligence, Bina, comment on réalise cette intelligence, chesed, comment Dieu donne, Gvura, comment Dieu ne peut pas donner de façon égale à tout le monde, ne peut pas donner la même générosité à Moïse quand il marche chez Moïtler. Il faut qu'il y ait voix, il faut qu'il y ait justice, etc. Tiferet, qui fait le lien entre les deux, etc. Les grands d'Israël ont chacun incarné, ont transformé, traduit leur existence comme une des données de la spirituelle, de la divine révélation. Abraham est devenu la sphira de Chesed sur terre. Yitzhak est devenu la sphira de Gvura sur terre. Yaakov est devenu la sphira de Tiferet, ça veut dire de Emet sur terre. Incarner la vérité à partir de la morale. Ça, c'est une idée très différente. Ça veut dire que chacun de nous possède une qualité qui lui est propre. Chacun de nous possède une lumière qui lui est tout à fait singulière. Un visage qui lui est absolument singulier, qui n'est qu'à lui. Ce visage physique qui lui est singulier renvoie à un trait de personnalité qui lui est absolument propre. Ce trait de personnalité, quelqu'un va être plus généreux, quelqu'un va être plus méticuleux, quelqu'un va être plus spirituel, l'autre va être plus tachlès, tout ce que vous voulez, des milliers de variations de caractère. Ces caractères-là engendrent des vérités. Et c'est ça la profonde différence entre l'éthique juive et l'éthique goy. C'est que la morale juive, c'est une morale qui est liée à la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, prenons par exemple Avraham Avinu. Avraham Avinu découvre que Dieu a créé le monde. Il ne le découvre pas à partir de spéculations philosophiques. Il découvre que Dieu a créé le monde parce qu'il est chesed. Et comme il est chesed, le monde ne peut pas être créé par hasard, puisqu'on voit qu'il y a du chesed dans le monde. On voit que on n'a jamais vu un chien donner sa côtelette à son copain. On n'a jamais vu un oiseau donner sa nourriture à un autre oiseau. On n'a jamais vu une baleine donner... Jamais. Un homme est capable de donner, de se sacrifier, donner... Il est capable de chesed. La matière n'est pas capable de chesed. La matière ne peut pas donner... La matière, elle est autoprotectrice. Elle détruit tout ce qui la met en danger. Et elle s'accapare de tout ce qui la nourrit, tout ce qui la substantie. Elle est dans la force de l'accaparation. Quand quelqu'un est capable de donner, capable d'aimer vraiment, Avraham est capable d'aimer, il découvre Dieu, il découvre la vérité que Dieu Parce que c'est pas possible que la matière donne. Donc il y a quelque chose, métamatière, métaphysique, au-delà de la physique, qui est la révélation, qui est la vérité du Dieu créateur universel. Donc on voit comment ici, une qualité de cœur, la capacité d'aimer, renvoie à une vérité métaphysique, Dieu créateur. La métaphysique juive engendre des vérités, et la vérité oblige à faire le bien. Et ça, c'est cette dialectique-là. Le bien est porteur de svarot, d'idées, génère des idées fantastiques. C'est la même chose avec Yitzhak. Yitzhak, qui est la milliard de rigueur, de justice, de droiture, découvre la vérité messianique et eschatologique. Dieu, le monde ne peut pas aller vers nulle part, il va vers son propre jugement. Il comprend le Messie, mais il ne comprend pas le Messie avec un raisonnement intellectuel. Il le comprend à partir de ses midot. Et donc il y a des vérités qui sont générées par les midot. Ça c'est Sinaï, c'est révélation. C'est la vérité qui naît des qualités humaines. Et inversement, dès qu'on comprend la vérité, si on la comprend vraiment, on est quelqu'un de bien. C'est pour ça que la vérité... Regardez Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il arrive dans un pays où pour se marier avec Rachel, Moshe, c'est pareil, il a été éjecté d'Égypte parce qu'il est intervenu en tuant un Égyptien qui voulait frapper un Juif, etc. etc. Il arrive, et la première chose qu'ils trouvent quand ils arrivent dans ce puits, c'est de se disputer avec des bergers, en disant pourquoi vous faites ça, pourquoi vous arrêtez de travailler maintenant, il faut... Tu peux pas te taire, te mettre de côté, non. Et Yaakov, c'est la vérité. Et quand la vérité ne supporte pas le mensonge. C'est que la vérité, pourquoi est-ce que tous les grands rachaïm, les grands jouisseurs, les grands affreux jojo, ils ont toujours des idées surtout. Ils ont des idées surtout. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent pas supporter la vérité. Parce que la vérité, elle oblige. Elle oblige à faire le bien. Et donc, on s'invente des shakers, on s'invente des systèmes de pensée, on instrumentalise les concepts pour se rendre pas tout, pour se disqualifier, s'épargner la peine d'être conforme à la vérité qui est dans l'existence physique, ça vient de l'éthique. Donc on voit qu'il y a un lien très profond entre l'éthique qui produit de la vérité et la vérité qui oblige à être morale. Et c'est ça la différence entre l'éthique juive et l'éthique non-juive. Dans l'éthique non-juive, c'est toujours des grands principes moraux, mais qui n'ont aucun rapport avec la profondeur de l'idée. Et l'intellectualisme non-juif, qui est la philosophie ou la science, n'implique pas un mode de vie conformément à une sagesse spirituelle. C'est séparé. Chez les Juifs, c'est un. Et c'est ça le Sinaï. C'est ça que le Sinaï enseigne. Le Sinaï, c'est le baiser du ciel avec la terre. C'est l'alliance entre la spiritualité et la vie. Et c'est pour ça que ces Mishnayot commencent du Sinaï. Alors, quand on lit un petit peu plus dans le texte, Moshe Kibel Torah Mishnaï. Mais ça a du choix. Il y a plusieurs questions. Pourquoi est-ce qu'il y a écrit ici Kibel et pas Masrou les Moshe? Alors qu'après on dit Oumessara les choix. Et pourquoi il y a écrit Sinaï? Pourquoi il n'y a pas écrit qu'il a reçu de Dieu? C'est la question que tout le monde pose ici dans les Mefarshim. Alors pourquoi il n'y a pas écrit Moshe Kibel Torah mi Hashem ou mi Akadosh Baruch Hu? Alors, ici on en fait un premier principe très important. C'est que si on avait dit Moshe Kibel Torah mi Hashem, on aurait réduit toutes les autres Kabbalot pour tous les autres hommes qui ne seraient pas Moshe, qu'ils n'auraient pas reçu la Torah de Moïse, de Dieu. Or c'est faux. Dieu est le maître de tous. Chaque Juif, où il est, dans la forêt la plus lointaine, dans le rocher, dans l'obscurité la plus opaque, dans la détresse la plus infinie, il peut ouvrir les mains vers le ciel, étudier la Torah, prier. Dieu lui parlera. C'est pas Moshe qui bel Torah mi Hashem, c'est Kol Yehudi ve Yehudi, Kol Am Israël qui bel Torah mi Hashem. Et donc, on nous dit qu'on n'a pas voulu dire Moshe Kol bel Torah mi Hashem, c'est le Maharal de Prague qui explique comme ça, pour deux raisons, le Maharal dit. Une, c'est parce que Hashem est trop grand pour faire une relation d'élève à maître. C'est le maître de tous, c'est pas le maître spécifique de Moshe. Ça, c'est évident, c'est une sorte de pas d'erreur de dire que Dieu est le maître de Moïse. Dieu est le maître universel, pas que de Moïse. Mais plus profondément, il dit, parce qu'en vérité, Dieu est le maître de tout le monde. Et ce n'est pas que Moïse qui a cette grâce et cette merveille d'écouter la parole de Dieu. Chacun d'entre nous peut l'écouter s'il le veut vraiment. Mais d'un autre côté, on nous dit aussi que Sinaï, c'est quelque chose qui peut se reproduire tout le temps. Chaque homme, quand Rabbi Yochanan enseignait la Torah, il se levait du rocher, ses élèves disaient « ce rocher, c'est le mont Sinaï ». Moshe kibel Torah mi Sinaï. La Torah, elle se mekabel toujours en Sinaï. C'est quelque chose qui est partout, tout le temps. C'est pas lié à Moshe simplement. C'est lié à un phénomène spirituel que chaque personne peut recevoir la Torah de Dieu. Et quand il reçoit, il étudie la Gemara, il comprend un chidouche, il comprend vraiment le Tosfot. Il reçoit la Torah de Dieu et cet instant, c'est Sinaï. C'est un moment de Sinaï. Le moment, c'est pour ça qu'on dit Keneti Nata. Il faut étudier la Torah comme elle a été donnée, avec crainte, avec joie, gratuitement. Parce qu'étudier la Torah, c'est pas étudier comme on étudie la philosophie ou la science à propos de quelque chose de spirituel. C'est de renouveler l'événement sinaïque au niveau individuel ou subjectif ou au niveau avec une chavruta. Mais c'est le Sinaï qui apparaît quand on étudie la Torah. Si on étudie la Torah et que le Sinaï n'apparaît pas, on n'étudie pas vraiment la Torah. D'ailleurs, le Beit Shmuel dit pourquoi on dit Missina, parce que Dieu n'a pas, le Bara dit la même chose, il dit Dieu n'a pas reçu toute la Torah. Moïse n'a pas reçu toute la Torah. Il y a une partie de la Torah qui est réservée pour d'autres, comme pour Rabbi Akiva, qui a compris des choses que Moïse n'a pas compris. Il n'a pas reçu toute la Torah. Il a kibbet ce qu'il a pu recevoir. Et on voit ici qu'il y a 5 niveaux. Il y a Moïse, qui est le reflet, qui est celui qui reçoit la Torah, la parole de Dieu. Et cette Moïse, on l'a dit, peut être se retrouver chez chacun. Yoshua, qui est comme la lune qui reçoit la lumière du soleil. Les Kenim, qui sont cette réalité d'Israël, de reproduire Sinaï dans l'étude de la Torah, ce qu'on vient d'expliquer. Les Nevi'im, qui sont une prophétie, qui sont réinventés Sinaï aussi. C'est pas juste recevoir Sinaï, c'est que le prophète pouvait produire une parole qui était la parole de Dieu comme au Sinaï. Comme ça dit le Maïmonide dans le Moré à Devorim, que chaque prophétie c'était un écho du Sinaï. Et après les Tanaïm, qui sont la Torah Shevalpé, à part avec le premier Tamar Rabbi Shimon Hatzadik, qui est comment chaque juif à l'intérieur de lui-même, dans sa subjectivité, dans sa Neshama, découvre en vérité Dieu. Et donc on a 5 niveaux. 5 niveaux, et il nous enseigne ces 3 choses-là. Et il nous dit les 3 choses les plus fondamentaux. Il dit 1, justice. 2, beaucoup d'élèves. 3, faites une barrière dans la Torah. Alors, le Maharal explique que tout commence par la justice. Sans justice, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de beauté, il n'y a pas de grandeur. Si on n'est pas capable d'être juste, rien ne commence. Tout commence. Regardez le premier mot du Pirkei Avot. C'est Yum et Tunim Badin. C'est le premier enseignement, la première injonction. Sans justice, sans droiture, tout est tordu. Si quelqu'un n'est pas juste avec sa femme, n'est pas juste avec ses enfants, n'est pas juste avec ses parents, n'est pas juste avec ses amis, s'il truand un peu, s'il ment, si il est, toute sa Torah, toute sa spiritualité est déviante. Elle n'est pas vraie. La justice, c'est le premier axe absolument indépassable, nécessaire, pour qu'il y ait un événement de spiritualité. Après, deuxièmement, enseignement. C'est la responsabilité de déborder de Torah. Ne pas garder la Torah pour soi, mais la donner aux autres. Et troisièmement, la responsabilité historique. Ça veut dire faire attention que la Torah ne s'abîme pas. Chacun est responsable que la Torah ne se perde pas. Et donc, c'est ce que dit aussi le Maharal, qu'ici, il y a 3 niveaux. Il y a les Gdolim, il y a les Talmidei Chachamim, il y a le peuple. Les Gdolim, c'est ceux qui sont le Beit Din, les grands d'Israël. Talmidei Chachamim, c'est les élèves. Et le peuple de faire une barrière pour la Torah. Il dit ça, Chochma, Binadat. Mais en tous les cas, il y a cet équilibre absolument fondamental qui est, on peut dire, le rapport, la justice. C'est l'orient. Je suis dans la bonne direction, je suis dans l'honnêteté. Il n'y a pas de spiritualité sans honnêteté. L'honnêteté fondamentale. L'enseignement, c'est le fait que la Torah ne m'appartient pas. C'est quelque chose qui déborde mon psyché. Mon psyché, c'est quelqu'un qui est plus grand que moi et donc que je partage, que je donne, qui est infini. Et 3, le fait que la Torah, c'est notre patrimoine. On le garde plus que notre corps. On doit faire siag la Torah. Alleluia, alleluia.